Chapitre 3. La prison de Pérouse. Le temps où vivait le jeune François était une période guerrière. L'empereur luttait contre le pape, le prince contre le roi, la cité contre la cité, le bourgeois contre le noble. Pendant que François n'était encore qu'un enfant, Frédéric Barberousse, par la paix de Constance le 25 juin 1183, s'était vu contraint d'accorder aux villes lombardes toutes les libertés pour la défense desquelles ces villes, avec l'appui du pape, avaient combattu victorieusement à Legnano 1176. Mais ensuite, le successeur de Barberousse, Henri VI, 1183-1196, renforça de nouveau le pouvoir impérial en Italie et Assise, dont déjà en 1174 avait pris possession l'archevêque chrétien de Mayence, chancelier de l'Empire allemand, mais qui, en 1177, avait réussi à reconquérir sa franchise communale et le droit d'avoir ses propres consuls, dut renoncer à ses droits municipaux et se soumettre à Conrad d'Iralingen, duc impérial de Spolète et comte d'Assise. Un an après la mort d'Henri, Innocent III fut élevé au trône pontifical. Et aussitôt, ce puissant prince de l'Église saisit dans ses fortes mains la protection des cités italiennes. Le duc Conrad fut obligé de venir à Narni pour rendre hommage au pape, et les bourgeois de la ville profitèrent immédiatement de son absence pour attaquer la forteresse germanique qui, menaçante, trônait au sommet du Sasso Rosso et dominait la ville. La forteresse fut envahie et détruite si à fond que lorsque les envoyés du pape vinrent en prendre possession au nom de leur maître, rien n'en restait plus qu'une ruine, celle-là même qui continuait à se dresser au-dessus d'Assise. Après quoi, afin d'être armés pour répondre aux suites de ce coup d'audace, les citoyens décidèrent d'élever des remparts autour de leur ville. Tous se mirent à l'ouvrage avec enthousiasme, et très peu de temps suffit au peuple d'Assise pour construire ces murailles coupées de portes et flanquées de tours qui, aujourd'hui encore, frappent de respect le visiteur. François avait alors environ 17 ans. Et comme le dit Sabatier, ce n'est nullement chose invraisemblable de supposer qu'il ait été un des plus vaillants ouvriers de ces glorieuses journées et qu'il ait pris là cette habitude de porter des pierres et manier la truelle qui devait lui être si utile peu d'années après. Naturellement, la plus grosse partie du travail, aussi bien pour ce qui est de la démolition que de la reconstruction, fut accomplie par les classes inférieures du peuple, les minores, comme on les appelait d'ordinaire. Le peuple acquit là une conscience de sa force, et bientôt, après avoir vaincu l'ennemi étranger, le tyrannique Tedesto, il se tourna contre les petits tyrans indigènes, ces nobles dont les demeures fortifiées se dressent çà et là au milieu de la ville. Une véritable guerre civile éclata. On assiégeait les maisons des nobles. Plusieurs d'entre elles étaient incendiées et la défaite de la noblesse paraissait inévitable. C'est alors que cette noblesse, dans son besoin, s'adressa à l'antique ennemi d'Assise, à la puissante Pérouse toute voisine. Des délégués des seigneurs d'Assise promirent de reconnaître la souveraineté de Pérouse sur leur ville si les habitants de Pérouse voulaient leur venir en aide. La République de Pérouse, qui se trouvait précisément au comble de son pouvoir et de sa grandeur, saisit avec empressement cette occasion pour se rendre maîtresse d'Assise. Son armée entra en campagne, prête à secourir les nobles assiégés. Cependant, les bourgeois d'Assise ne perdirent point leur courage. unis à quelques nobles qui étaient restés fidèles à leur cité natale, ils rencontrèrent les troupes de Pérouse près du pont Saint-Jean, dans la vallée qui s'étend entre les deux villes. Mais la lutte tourna à l'avantage de Pérouse, et un grand nombre des combattants d'Assise furent faits prisonniers, parmi lesquels se trouvait précisément notre jeune François. Et ce fils de marchand, en raison de sa situation sociale et de ses manières de gentilhomme, obtint de n'être pas enfermé avec les bourgeois, mais de partager le sort des nobles, ainsi que maintes anciennes ordonnances communales françaises voulaient que fussent traités les bourgeois honorables. La bataille du pont Saint-Jean eut lieu en l'an 1202, et la captivité à Pérouse dura une année. Pendant tout ce temps, François étonna les autres prisonniers par son incessante gaieté. Bien que ses compagnons et lui n'eussent guère de motif de se réjouir, sans cesse on l'entendait chanter et plaisanter. Et si quelqu'un lui reprochait cette attitude, il se bornait à répondre « Ignorez-vous donc qu'un grand avenir m'attend et que le monde entier un jour s'inclinera devant moi et m'adorera ?» C'était là une première expression de cette confiance assurée dans sa destinée, de cette conviction tranquille d'un avenir magnifique à lui réservé, que tous les biographes nous signalent comme l'un des traits caractéristiques de saint François pendant ses années de jeunesse. Enfin, au mois de novembre 1203, la paix fut conclue entre les deux parties ennemies. Les bourgeois d'Assise s'engagèrent à compenser tous les dommages causés par eux à la propriété des nobles. Et ceux-ci, de leur côté, promirent de ne plus contracter d'alliance au dehors sans l'autorisation de leurs concitoyens. François fut remis en liberté avec les autres prisonniers, parmi lesquels il avait joué le rôle non seulement d'un apôtre de la joie, mais aussi d'un pacificateur. Il y avait en effet dans la prison un chevalier qui, à cause de sa hauteur et de son impudence, s'était fait haïr de tous ses camarades. Et François, au lieu d'éviter cet homme difficile, lui avait témoigné la plus grande patience, le traitant à la fois avec tant d'habileté et de douceur que dès avant la fin de la captivité, l'orgueilleux et grossier personnage avait reconnu ses fautes et sollicité d'être admis dans le cercle dont lui-même jusqu'alors s'était obstinément tenu à l'écart. Mais avec cela, il paraît bien que la longue fréquentation forcée des prisonniers nobles ait contribué encore à développer dans le cœur du jeune fils de marchand cet amour de la vie et des occupations aristocratiques qui s'est manifesté chez lui durant les 3 années postérieures à son emprisonnement, 1203-1206. Désormais, François n'a plus voulu être qu'un disciple de la gaie science provençale, et c'est depuis lors, surtout, qu'il s'est jeté dans ce tourbillon de fêtes et de plaisirs dont n'a pu le tirer que la maladie qui, dans sa 23e année, l'a conduit tout près des portes de la mort. Et encore, la maladie même ne l'en est-elle point tirée pour toujours. Chapitre 4. La vision de Spolette. Car le jeune homme était loin d'être converti. Il avait éprouvé le vide de son âme, mais sans avoir rien trouvé pour le remplir. Et ainsi, à mesure que la convalescence s'avançait, et que les forces renaissaient de plus en plus, il retournait à sa vie mondaine, suivant les mêmes sentiers qu'il avait suivis avant d'être malade. La seule différence était que maintenant, il ne goûtait plus aucune joie à cette vie qu'il menait. Une inquiétude vague était en lui, qui jamais ne lui laissait de repos. Il avait dans l'âme un aiguillon qui sans cesse le poussait en avant. Et plus encore que par le passé, il rêvait de grands exploits, d'étranges et merveilleuses aventures dans des pays lointains. De nouveau, la vie du chevalier se dressait devant lui comme la seule qui fût capable de satisfaire l'aspiration indéfinie de son âme à atteindre quelque chose de très haut. Nourri comme il l'était depuis l'enfance des romans du roi Arthur et des compagnons de la Table Ronde, il voulait lui aussi devenir un chevalier du Graal, lui aussi parcourir le monde, sacrifier son sang pour de grandes causes, et puis, car cette pensée ne le quittait point, revenir à Assise après s'être couvert d'une gloire immortelle. Vers ce même temps, la lutte constante entre l'empereur et le pape était entrée dans une nouvelle phase. La veuve d'Henri VI avait confié à Innocent II la tutelle de l'héritier du trône, le futur Frédéric II. Mais l'un des chefs d'armée de l'empereur défunt, nommé Markwald, avait prétendu que de par le testament d'Henri, lui seul avait le droit d'être tuteur du jeune prince et régent de son royaume. Et comme Innocent n'était point disposé à abandonner ce qu'il avait entrepris, force lui avait été de recourir aux armes pour défendre sa cause. La guerre s'était déroulée dans le sud de l'Italie, car l'impératrice douairière Constance, ayant hérité des rois normands, était aussi reine de Sicile. Longtemps, Innocent avait subi défaite sur défaite, jusqu'au jour où il avait confié son armée au comte Gauthier III de Brienne, qui lui-même, au nom de la princesse normande qu'il avait épousée, prétendait avoir des droits sur Tarente. Cet excellent capitaine avait vaincu les Allemands dans une suite de combats à Capoue, à Lecce, à Barletta, et sa renommée s'était répandue par toute l'Italie, provoquant un enthousiasme universel. Car les Allemands étaient alors universellement détestés, et c'est ainsi qu'en Sicile, par exemple, le mot « allemand » était devenu synonyme de lourd, maladroit et grossier. Le troubadour français Père Vidal parcourait la Lombardie en chantant des satires contre les Allemands. « Je ne voudrais point être gentilhomme au pays de Frise, disait-il, car il me faudrait entendre toujours la langue qu'on y parle et qui ressemble plutôt à un aboiement qu'à un langage humain. Tout ce qui était jeune, fier et noble en Italie se soulevait contre la domination étrangère. Et le nom de Gauthier de Brienne flottait comme une bannière bénie par le pape au-dessus des troupes enflammées de courage. Assise n'avait-il pas échappé à cet enthousiasme national? Un des nobles de la ville s'était armé pour aller rejoindre les forces de Gauthier dans la Pouille avec un petit groupe de compagnons. Et François, dès qu'il apprit cette nouvelle, fut envahi d'une exaltation fiévreuse. La voilà donc venue, l'occasion qu'il avait si longtemps désirée. Et maintenant, il s'agissait pour lui de la saisir, maintenant ou jamais. Le noble d'Assise allait emmener François dans son expédition, et bientôt, le comte Gauthier allait le sacrer chevalier. Avec sa passion ordinaire, le jeune homme se donna tout entier à la réalisation de ce plan. Il était rempli de cette joie débordante que nous éprouvons durant les préparatifs d'une période nouvelle de notre vie. Une sorte de fureur de voyage s'empara de lui. Il courait par les rues au lieu de marcher. Ses amis constatèrent que sa gaieté habituelle avait pris des proportions démesurées. Et lorsqu'ils lui demandaient la cause, c'est avec des yeux rayonnants qu'il leur répondait « Je sais que je vais devenir un grand prince. » On entend bien que rien ne fut épargné pour l'équipement du jeune guerrier. Un de ses biographes dit que tous ses vêtements étaient à la fois singuliers et de grand prix. C'était ce qu'on pouvait attendre d'un jeune homme riche, prodigue et ami du luxe. Mais voici un autre trait, et qui lui est plus personnel. Quelques jours avant son départ, François rencontre un de ses futurs compagnons, un noble, et découvre que celui-ci, à cause de sa pauvreté, ne peut s'habiller et s'armer que de très piètre façon. Sur quoi, il donne à ce compagnon tout son précieux équipement et prend en échange celui du noble pauvre. Tout rempli comme il est de l'existence nouvelle qui va s'ouvrir à lui, chaque nuit il rêve d'armes et de guerre. La nuit même du jour où il s'est montré généreux envers le chevalier, un rêve de ce genre lui survient, qui lui apparaît plus significatif que tous les autres. Il lui semble qu'il est dans la boutique de son père, peut-être pour faire ses adieux. Mais au lieu des rouleaux de drap empilés d'ordinaire sur les planches, du haut en bas de la boutique, voici qu'il aperçoit de toutes parts des boucliers éclatants, des lances et de splendides harnais. Et comme il s'étonne de ce spectacle, il entend une voix qui lui dit « Tout cela t'appartient, ainsi qu'à tes soldats. » François ne pouvait manquer de prendre ce rêve pour un signe favorable. Un joyeux matin, il s'élança à cheval et se mit en route pour la Pouille avec le reste de la petite troupe. Leur chemin les conduisait par ce qui est aujourd'hui la Porte Neuve vers Foligno et de Foligno vers Spolète, où l'on atteignait la voie flaminienne menant à Rome et dans l'Italie du Sud. Et c'est là, à Spolète, que François trouva aussitôt le terme de son entreprise guerrière. Car voilà que de nouveau à Spolète, il fut touché par cette même main qui, une fois déjà, l'avait jeté sur un lit de Manal pour le forcer à réfléchir et à rentrer en soi-même. Dès arrivé, un accès de fièvre l'obligea à garder le lit. Et pendant qu'il restait étendu, à demi éveillé et à demi dormant, soudain il entend une voix qui lui demande où il a l'intention de se rendre. « En Pouille, pour devenir chevalier, répond le malade. « Et dis-moi, François, reprend l'interlocuteur invisible, lequel des deux est le mieux en état de te servir, le maître ou le serviteur ?»« Le maître ?» répond François étonné. « Et pourquoi donc ?» poursuit la voix. « Délaisses-tu le maître pour le serviteur et le prince pour son vassal ?» Alors François comprit d'où venait cette voix qui lui parlait. Et comme autrefois saint Paul, il s'écria « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» À quoi ? La voix répondit « Retourne dans ta patrie. Là, il te sera dit ce que tu dois faire. Car l'apparition que tu as vue doit s'entendre d'une autre façon que tu l'as comprise. » Puis la voix se tut et François s'éveilla. Tout le reste de la nuit, il se retourna sur son lit sans pouvoir se rendormir. Mais dès le matin suivant, il se leva, sella son cheval et tout revêtu de cet appareil guerrier dont il venait brusquement de sentir la vanité, il reprit le chemin d'Assise. Nous n'avons aucun renseignement précis sur l'accueil qui lui fut fait à son retour, mais nous pouvons aisément nous le représenter. Du moins, semble-t-il, on lui ait très vite pardonné cette nouvelle excentricité comme les précédentes et que bientôt il soit redevenu l'âme du cercle joyeux de ses amis. De nouveau, l'ancienne vie reprit son cours avec ses fêtes et ses amusements. Et de nouveau, François fut compté comme le premier des jeunes gens d'Assise. Que si quelqu'un lui parlait de son expédition manquée, il répondait avec une assurance imperturbable qu'il n'avait renoncé à cette aventure lointaine que pour accomplir de grandes choses dans sa propre patrie. Mais en réalité, au fond du cœur, il était loin d'éprouver cette assurance qu'il faisait voir. Des sentiments et des aspirations contraires se succédaient en lui continuellement. Tantôt, il appartenait tout entier au monde. Tantôt, il souhaitait de servir ce maître dont la douce voix à Spolète lui avait parlé avec tant d'instance. Et sans cesse grandissait en lui un besoin de se retirer pour quelque temps dans la solitude, afin de pouvoir méditer plus clairement sur sa destinée à venir. Mais si lui-même mettait de moins en moins d'empressement à rechercher ses amis, ceux-ci continuaient à le rechercher, et lui, craignant qu'on pût le soupçonner d'être devenu économe, poursuivait comme par le passé la folle série de ses prodigalités. Ainsi il arriva qu'un soir, probablement dans l'été de 1205, le jeune marchand fit préparer un banquet, plus riche encore et plus brillant qu'à l'ordinaire. Suivant l'usage, il fut le roi de la fête, et le repas achevé, tous ses invités s'accordèrent à l'accabler d'éloges et de remerciements. Puis, au sortir de table, toujours suivant l'usage, les jeunes gens allèrent en chantant par les rues. Mais François, qui était resté un peu en arrière des autres, ne chantait point. Et peu à peu, il laissait ses amis prendre de l'avance sur lui, de telle sorte qu'enfin il se retrouva seul, parmi le silence de la nuit, dans quelqu'une de ces étroites rues grimpantes, ou sur quelqu'une de ces petites places que l'on peut voir aujourd'hui encore à Assise. Et c'est là que le Seigneur, une fois de plus, daigna le visiter. Tout à coup, le cœur de François, las du monde et de sa vanité, fut rempli d'une telle douceur que le jeune homme ne fut plus en état de sentir rien d'autre. Il était privé de conscience. Si quelqu'un l'avait frappé ou coupé en morceaux, ainsi qu'il le disait lui-même dans la suite, certainement il ne s'en serait pas aperçu et n'aurait pas eu l'idée de faire un mouvement pour l'empêcher. Combien de temps il est resté ainsi imprégné et accablé de cette douceur céleste? C'est ce que jamais il n'a pu savoir. Il n'est revenu à soi qu'en entendant l'appel d'un de ses amis, qui étant revenu sur ses pas pour le chercher, lui criait « Hé, François, est-ce la pensée d'un mariage qui te tient là, immobile ?» À quoi le jeune homme répondit, levant les yeux au ciel, où les étoiles brillaient de cet éclat merveilleux qu'elles ont à Assise par les claires nuits doux. « Oui, je pense effectivement à me marier. » Mais la fiancée que je veux conquérir est plus noble et plus riche et plus belle qu'aucune femme que vous connaissiez. » Aussitôt, les amis du rire, car plusieurs autres étaient survenus, et le vin sans doute, les avaient mis de belle humeur. « En ce cas, aura peut-être dit l'un des jeunes gens, ton tailleur va de nouveau avoir fort à faire, comme au moment où tu devais partir pour la Pouille. » François entendit leur rire et se sentit envahi de colère. Mais non point contre eux, dans une illumination subite, il vit apparaître devant lui toute sa vie jusqu'à ce jour, avec son désordre, son inutilité, sa vanité puérile. Il se vit soi-même dans sa réalité pitoyable, et en face du triste rôle qu'il avait joué, se dressait avec une beauté rayonnante la vie que jusqu'alors il n'avait pas menée. La vie véritable, la vie bonne, la belle, noble, riche vie, la vie en Jésus-Christ. À cette vue, François ne pouvait éprouver de colère contre personne autre que soi-même. Et la vieille légende nous apprend que c'est depuis cette heure qu'il commença à se mépriser. Chapitre 5 : Le baiser donné aux lépreux. Un écrivain du XVe siècle, San Antonin de Florence, 1389-1459, dans sa chronique ecclésiastique, a résumé en deux lignes l'occupation de François durant les premières années qui ont suivi son adieu à ses amis et à sa vie de plaisir. Tantôt il se tenait caché dans des grottes solitaires, et tantôt pieusement il travaillait à reconstruire des églises. La prière dans la solitude et le travail personnel pour le royaume de Dieu, c'est en effet par ces deux moyens que le jeune homme, ayant renoncé à son existence mondaine, a cherché à se rendre compte clairement des intentions de Dieu à son endroit. À peu de temps distance de la ville, il y avait dans les rochers une grotte où il avait coutume de se retirer pour prier. Parfois, il allait seul jusqu'à cette grotte, mais plus souvent encore avec un ami, l'unique compagnon qui paraisse lui être resté fidèle après ce qu'on pourrait appeler la première étape de sa conversion. Malheureusement, aucun des biographes ne nous a conservé le nom de cet ami. Thomas de Celano nous dit seulement qu'il était un personnage important, grand parmi d'autres. François avait par nature un grand besoin de s'épancher. Ses biographes disent même que quelquefois il parlait malgré lui, contre sa volonté, des choses dont son âme était remplie. Aussi n'est-il pas étonnant que cette fois il ait fait sa confidence à son ami et dans la langue imagée de l'Évangile. Lui avait vanté le précieux trésor qu'il avait trouvé dans cette grotte ou porte d'Assise et qui n'avait plus maintenant qu'à être extrait du sol. Mais il ajoutait qu'il devait être seul pour pouvoir soulever ce trésor. Et toujours ainsi, il avait coutume de renvoyer son ami avant de pénétrer lui-même dans la grotte. C'est là, dans ce creux solitaire et sombre du rocher, que François se créa un oratoire secret où sans cesse, librement, il pouvait appeler et interroger son Père céleste. Et de jour en jour, le désir grandit en lui d'accomplir la volonté de Dieu. Et bientôt, il comprit clairement qu'il n'aurait pas un instant de paix avant d'être parvenu à la pleine connaissance de ce que Dieu exigeait de lui. À tout moment revenaient sur ses lèvres ces mots du psalmiste qui expriment l'essence de toute véritable adoration. « Seigneur, montre-moi tes chemins et enseigne-moi la perfection de tes sentiers. » Et sans cesse, en regard de ce pur idéal, la vie qu'il avait menée jusqu'alors lui apparaissait plus noire et plus détestable. Avec une amertume plus profonde d'heure en heure, il se lamentait sur sa jeunesse mal employée. Le souvenir des amusements et des folies de cette jeunesse le remplissait d'un dégoût mêlé d'épouvante. Mais comment réussirait-il à ne point retomber? N'avait-il pas été averti déjà à maintes reprises? Et n'avait-il pas chaque fois dédaigné l'avertissement pour suivre ses penchants, ses plus misérables? Quand ses amis reviendraient l'appeler, quand ses narines sentiraient de nouveau le parfum des banquets et que résonnerait à ses oreilles l'appel charmant de la viole et du luth, trouverait-il la force de résister à tout cela et de ne point se précipiter comme naguère dans ce monde joyeux des fêtes et du rêve qu'il verrait flotter tel qu'un nuage doré au-dessus de l'ennuyeuse et grise réalité quotidienne? François n'avait aucune confiance en soi-même et Dieu ne semblait pas vouloir lui accorder le secours qu'il en implorait. L'âme ravagée d'angoisse, il luttait dans sa solitude et parmi les ténèbres de sa retraite pour conquérir son salut. Et lorsqu'enfin, épuisé et torturé, il reparaissait à la lumière du jour, son ami avait peine à le reconnaître, tant son visage était dévasté. C'est ainsi qu'il devint un homme de prière. Dès ce moment, il avait commencé à goûter la douceur de l'intime entretien de l'âme avec Dieu. Et souvent, ses compagnons le voyaient, en passant dans une rue ou sur une place, les quitter tout à coup pour aller s'agenouiller dans une église. Tout porte à croire que Bernardone faisait de fréquentes absences pendant que ces changements s'accomplissaient dans le cœur de son fils. La mère, qui d'après tous les biographes préférait François à ses autres enfants, le laissait entièrement libre d'agir à sa guise. Et d'ailleurs, il est probable que le jeune homme continuait à mener la même vie qu'auparavant, avec cette seule différence que les pauvres désormais avaient remplacé les amis de jadis. C'était eux qu'il recherchait, à eux qu'il offrait des banquets et des cadeaux. Un jour, comme sa mère et lui allaient s'asseoir à dîner, Dame Picard s'aperçut que François avait placé sur la table une si grande quantité de pain qu'il aurait suffi pour le repas d'une nombreuse famille. Elle lui demanda ce que pouvait signifier ce luxe imprévu, et François répondit qu'il avait acheté tous ses pains à l'intention des pauvres. Rencontrait-il dans la rue un mendiant qui sollicitait une aumône? Aussitôt, il lui donnait tout l'argent qu'il avait sur lui. Ou que si l'argent avait déjà été donné, il donnait son chapeau, sa ceinture. Parfois, quand il ne possédait rien d'autre, il emmenait le pauvre dans un endroit écarté, ôtait sa chemise et lui en faisait don. Il avait commencé aussi, dès ce moment, à se préoccuper des besoins des prêtres et des églises pauvres. Souvent, il achetait des vases d'église et les envoyait secrètement, où l'on en manquait. Nous rencontrons ici la première manifestation de cette sollicitude passionnée que François, toute sa vie depuis lors, allait éprouver pour tout ce qui concernait les églises, et qui, entre autres témoignages caractéristiques, allait s'exprimer par l'envoi qu'il devait faire à toutes les provinces de son ordre de bons et beaux fers, afin qu'on les employât à produire de belles hosties blanches. Mais par-dessus tout le reste, les pauvres occupaient maintenant sa pensée. Les voir, écouter leurs plaintes, alléger leur détresse, telle devenait de plus en plus son occupation principale. Et ainsi, peu à peu, un désir nouveau s'installait, se précisait en lui. Si je pouvais, une fois au moins, constater en personne ce que c'est que d'être pauvre, me rendre compte de ce que l'on éprouve lorsqu'on est, non pas celui qui passe et qui jette son aumône, mais celui qui se tient là, sale et dégainillé, et qui, s'inclinant humblement dans son chapeau, éculé, pour demander un secours. Nous pouvons être sûrs que souvent, pour satisfaire cette curiosité, le jeune homme aura fait de longues stations parmi la troupe des mendiants aux portes des églises. Mais c'était toujours autre chose que d'être soi-même un mendiant, d'avoir ça même à arrêter pitoyablement les passants pour les supplier d'être charitables. Pour comprendre la pauvreté, François sentait qu'il devait lui-même se mettre à mendier. Il se désolait de ne pouvoir le faire, à Assise où tout le monde l'aurait reconnu. C'est alors que l'idée lui vint d'entreprendre un pèlerinage à Rome. Là-bas, dans la grande ville, personne ne le connaissait. Rien ne l'empêcherait de réaliser son désir. Peut-être cette idée d'un pèlerinage au tombeau des apôtres fut-elle un peu inspirée aussi par les circonstances particulières du temps. Nous savons en effet que du 14 septembre 1204 au 25 mars 1206 et du 4 avril au 11 mai de cette même année 1206, le pape Innocent III résidait à Rome et sans doute un aussi long séjour sur les bords malsains du Tibre n'aura pu manquer d'être motivé par des cérémonies spéciales dans la basilique de Saint-Pierre, peut-être accompagnant la concession d'une indulgence solennelle. Le fait est que l'évêque d'Assise lui aussi s'est rendu à Rome vers ce temps-là. Quoi qu'il en soit, ou reste, toujours est-il que François s'y est également rendu de son côté. Mais nous ne possédons que peu de renseignements sur cette première visite du saint à la vie éternelle. Il y est arrivé par la voie flaminienne, et vraisemblablement s'est aussitôt dirigé vers Saint-Pierre. Là, il aura rencontré un grand nombre d'autres pèlerins et aura vu comment ceux-ci, suivant l'usage, lançaient des pièces de monnaie en manière d'offrande par la fenestella, ou fenêtre grillagée, du tombeau de l'apôtre. Mais la plupart, naturellement, ne jetaient que de petites pièces de billon. Or François, après être resté quelques minutes à le considérer, sentit s'allumer en lui un dernier éclat de son ancien goût d'ostentation. Ouvrant sa bourse, que sa mère avait eu soin de remplir abondamment, il lança une pleine poignée d'or à travers les barreaux, de telle sorte qu'on entendait sur la dalle un tintement sonore et que toute la foule émerveillée contempla ce jeune pèlerin si follement généreux. Cependant, François, dès la minute suivante, était sorti de l'église et d'un signe de tête avait appelé à lui l'un des mendiants qui se tenait devant le portail. Après quoi, ayant pu enfin réaliser l'objet principal de son voyage, il revint se placer, couvert de véritables haillons, parmi les pauvres gens qui sollicitaient la charité des passants, debout sur les marches du portail de Saint-Pierre. Nous possédons même un document des plus précieux sur l'état d'esprit où il se trouvait à ce moment. Car l'un de ses biographes nous dit que c'est en langue française qu'il demandait l'aumône, langue qui parlait volontiers, bien qu'il ne la connût qu'imparfaitement. Le français était pour lui la langue de la poésie, la langue de la religion, la langue de ses meilleurs souvenirs et de ses heures les plus solennelles, la langue où il recourait lorsque son cœur était trop plein pour pouvoir s'exprimer dans son langage natal, vulgarisé pour lui par l'usage quotidien. C'était essentiellement la langue maternelle de son âme. Toutes les fois qu'il parlait en français, ceux qui le connaissaient savaient qu'il se sentait heureux. Nous ignorons combien de temps a duré le séjour de François à Rome. Peut-être en est-il reparti dès le lendemain de son arrivée. Les sources nous apprennent seulement que, après avoir partagé le repas des mendiants, il s'est dépouillé du vêtement emprunté, a repris son ancien costume et s'en est retourné voir Assise. Il avait fait maintenant la grande expédition de la pauvreté. Il avait porté des haillons et mangé le pain de l'aumône. Et bien que sans doute il n'ait pu s'empêcher de se sentir à l'aise lorsqu'il avait revêtu de nouveau ses bons habits ordinaires et de nouveau s'était assis à la table luxueuse et richement fournie de sa maison paternelle, il n'en avait pas moins goûté désormais l'enchantement spirituel qu'offrait le manque de besoin et l'absence de tout avoir. Il connaissait désormais la joie que l'on peut éprouver à ne rien posséder au monde qu'une gorgée d'eau de la source, une tranche de pain obtenue par charité et une couche pour la nuit sous le ciel bleu resplendissant d'étoiles. Pourquoi s'inquiéter et se soucier de tant de choses et de revenus, de maisons et de jardins, de serviteurs et de bétail, tandis que l'on peut vivre de si peu? L'Évangile ne dit-il point « Bienheureux sont les pauvres » et puis encore « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. » Des pensées de ce genre ont dû certainement agiter le jeune François après son retour de Rome. Avec plus d'ardeur encore qu'auparavant, il s'adressait maintenant à Dieu pour lui demander lumière et direction. Des hommes, décidément, il voyait bien qu'il ne pouvait attendre rien de tel, car l'ami même qui jusqu'alors avait coutume de l'accompagner sur le chemin de sa grotte semblait s'être peu à peu lassé de prendre part à cette prétendue découverte d'un trésor qui ne se montrait toujours pas. Le seul homme à qui François de temps à autre put désormais ouvrir son cœur était l'évêque d'Assise, Guido, qui très probablement aura été son confesseur dès ses premiers essais de la vie nouvelle. Mais si les biographes du saint n'ont rien à nous apprendre sur cette période de méditation solitaire et silencieuse, d'autant plus précieux sont les aveux que nous fait François lui-même dans son testament, écrit peu d'années avant sa mort. Nous lisons par exemple ceci. Le Seigneur m'a permis de commencer ma conversion de cette façon que, pendant que je vivais encore dans mes péchés, je ne pouvais supporter sans répugnance la vue des lépreux. Mais le Seigneur m'a conduit parmi ces infortunés et j'ai pratiqué la compassion à leur égard. Les lépreux occupaient une position très particulière parmi les malades et les pauvres du Moyen-Âge. À la faveur d'un passage du prophète Isaïe, ces malheureux étaient considérés plus encore que tout le reste de l'humanité souffrante comme un symbole vivant du Sauveur. Déjà Grégoire le Grand nous raconte l'histoire du moine Martyrius qui sur son chemin avait rencontré un lépreux accablé de douleur et d'épuisement au point de ne pouvoir pas continuer sa route. Martyrius avait enveloppé le malade dans son manteau et l'avait emporté dans ses bras jusqu'à son couvent. Mais voici que, entre ses bras, le lépreux s'était changé en Jésus lui-même, qui, avant de remonter au ciel, avait béni le moine et lui avait dit « Martyrius, tu n'as pas eu honte de moi sur la terre, je n'aurai pas honte de toi dans le ciel. » Et d'autres traits analogues sont rapportés de saint Julien l'Hospitalier, du saint pape Léon IX, du bienheureux Colombini. Aussi les lépreux étaient-ils, plus que tous les autres pauvres au Moyen-Âge, l'objet d'une sollicitude pieuse, un ordre de chevalerie spéciale, l'ordre de Saint-Lazare, avait été fondé expressément pour prendre soin d'eux. Et dans toute l'Europe, s'étaient élevées de nombreuses léproseries. Il y en avait 19 000 au début du XIIIe siècle. où les lépreux étaient logés et nourris dans une sorte de communauté conventuelle. Mais malgré tout cela, l'existence de ces malades était infiniment triste. Ils se trouvaient exclus de la société des hommes et des lois sévères en tout pays les empêchaient d'avoir aucun rapport avec le reste du monde. De même que partout ailleurs en Italie, un hôpital de lépreux avait été créé aux environs d'Assise, en fait, les lépreux ont été les premiers malades hospitalisés des temps modernes. Cet hôpital était situé à mi-chemin entre Assise et Portiuncule, à peu près vers l'endroit où de nos jours se dresse un grand édifice portant l'inscription « Casa Gualdi ». L'hôpital s'appelait Saint-Sauveur des Mers et appartenait à un nouvel ordre fondé sous Alexandre III pour le soin des lépreux, l'ordre des Crucigères. Souvent François, dans ses promenades, était passé devant cette maison, et toujours sa seule vue l'avait rempli de dégoût. Volontiers il acceptait l'idée de donner un secours aux lépreux, mais seulement à la condition qu'un autre se chargeât de leur transmettre. Lorsque le vent soufflait du côté de l'hôpital et que le jeune homme sentait arriver jusqu'à lui l'odeur fade et écœurante qui est propre aux lépreux, aussitôt il s'enfuyait en détournant le visage et en se bouchant le nez avec les doigts. C'est donc sur ce point qu'était sa principale faiblesse, et c'est sur ce point aussi qu'il devait remporter sa plus grande victoire. Car un jour, pendant qu'il invoquait Dieu, suivant son habitude, voici qu'une réponse lui fut enfin accordée. Et cette réponse disait « François, toutes les choses que tes sens ont aimées et désirées, il faut que tu les méprises et haïsses si tu veux reconnaître ma volonté. Et dès que tu seras entré dans cette voie, tout ce qui est précédemment te semblerait doux et aimable, te deviendra amer et impossible à supporter. Et tout ce que jusqu'alors tu détestais se changera pour toi en grande douceur et en joie débordante. » Dans ces paroles, François recevait enfin un programme défini, l'indication d'une route qu'il aurait à suivre, et sans doute était sur ces paroles qu'il méditait dans une de ses chevauchées solitaire par la vallée ombrienne, lorsque son cheval, ayant fait un mouvement soudain de recul, il aperçut devant lui, à une distance d'à peine 10 ou 20 pas, un lépreux, vêtu de son costume facile à reconnaître. François s'effraya, comme son cheval avait fait avant lui, et sa première impulsion fut de tourner bride pour s'enfuir le plus vite qu'il pourrait. Mais alors se dressèrent tout à coup nettement devant lui les mots qu'il avait entendus au plus profond de son être. Ce qui jusqu'alors t'était odieux, c'est cela qui pour toi doit se changer désormais en joie et en douceur. Or, qu'y avait-il au monde qui lui fût plus odieux qu'un lépreux? Voilà donc arrivé l'instant où il avait à remplir la parole du Seigneur, à montrer enfin sa bonne volonté. Avec un puissant effort de contrainte sur soi, le jeune homme descendit de cheval, s'approcha du lépreux, dont la bouche et le nez rongés lui envoyaient l'affreuse puanteur, et posa son aumône dans la main tendue du malade, après quoi, précipitamment, il se pencha, et tout rempli d'horreur, baisa les doigts pourris, semés de plaies et d'ulcères. Quand il se retrouva sur son cheval l'instant d'après, à peine savait-il comment il y était remonté. Toute son âme tremblait d'émotion, son cœur battait comme un marteau, et il se rendait aucun compte du chemin qu'il avait pris. Mais le Seigneur lui avait tenu parole. La douceur et le bonheur et la joie coulaient en lui à grands flots, coulaient sans fin, bien que tout son être en fût déjà rempli à déborder, comme la source claire remplit et remplit sans cesse l'écuelle d'une eau toujours plus fraîche et plus pure. Le lendemain, ce fut de son plein gré que François reprit la route qu'hier encore il avait coutume d'éviter soigneusement, la route qui menait à Saint-Sauveur-des-Murs. Arrivé à la porte de l'hôpital, il frappa. Et lorsqu'on lui eut ouvert, pénétra dans l'hôpital. De toutes les cellules, les malades accoururent vers lui, avec leurs visages à demi mangés, leurs yeux aveugles et sanguinolents, leurs pieds gonflés et tordus, leurs mains privées de doigts. Et toute cette foule affreuse se réunit autour du jeune fils de marchand. Et l'odeur qui sortait de leur gosier malade était si forte que François, malgré sa volonté, ne put d'abord s'empêcher de se boucher le nez pour échapper au malaise qui l'envahissait. Mais il parvint à se ressaisir, tira de sa poche la bourse pleine qu'il avait apportée et se mit à distribuer ses aumônes. Et sur chacune de ses effroyables mains qui se tendaient pour recevoir son présent, de même qu'il avait fait la veille, il appuya tendrement ses lèvres. Ainsi François remporta la plus grande victoire que l'homme puisse remporter, la victoire sur soi-même. Désormais il était son maître et non plus, hélas comme la plupart d'entre nous, l'esclave de lui-même. Mais il n'y a pas de vainqueur si triomphant dans la lutte intérieure qu'il n'ait toujours à se tenir sur ses gardes contre un ennemi toujours en éveil. Maintenant François avait vaincu dans la grande bataille, mais l'ennemi s'efforçait de le faire succomber dans de petites escarmouches. Le jeune homme continuait à se rendre tous les jours dans sa grotte aux environs de la ville pour s'y livrer à la prière. Et plusieurs fois, il lui était arrivé de rencontrer sur son chemin de retour une vieille femme bossue de l'espèce de ces misérables créatures contrefaites qui, dans les pays du Sud, se réfugient volontiers dans la demi-obscurité protectrice des églises. À toute heure, on peut les trouver là, égrenant leur rosaire ou bien sommeillant dans un coin. Mais aussitôt qu'un étranger s'approche, les voici qui rattachent leur fichu sur leur tête et sortent en boitant de leur trou et mendient pitoyablement en étendant une main toute crasseuse. « Un soldo, signore, un soldo, signore no mio !» C'était une pauvre vieille de cette sorte qui souvent se traînait sur le passage du jeune homme. Et ainsi, peu à peu, dans l'âme du nouveau converti, la vue de cette femme souleva un grand mouvement de malveillance et de révolte. De malveillance contre la malpropreté et la misère, et de révolte contre le souci et le besoin. Pendant qu'il continuait sa promenade et que le soleil brillait autour de lui, et que les champs verdoyaient, et qu'un voile s'étendait au loin sur les montagnes, de plus en plus clairement, une voix lui murmurait à l'oreille. Tu veux donc renoncer à tout cela? Abandonner tout cela? Tu veux quitter la lumière et le soleil, la vie et la joie, les gais festins et les exquises chansons pour aller t'enfermer dans une sombre caverne et pour gâcher le meilleur de ta jeunesse en d'inutiles prières et pour devenir enfin un vieux fou qui misérablement se traîne d'église en église? Et peut-être soupire et se désole en secret sur sa vie perdue. Ainsi murmurait le mauvais ennemi à l'âme du jeune homme. Et il y avait des instants où la jeunesse de François, son génie naturel de lumière et de gaieté, et les aspirations chevaleresques de son âme, hésitaient, chancelaient sous la tentation. Mais à peine avait-il pénétré dans sa grotte que tout de suite il réussissait à se dompter. Et plus le combat avait été dur, plus profonde était ensuite sa paix et sa consolation dans son entretien avec Dieu. »